Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi. C'est Marianne Paquette au micro, Jean-Sébastien La Liberté derrière sa console. On est là pour cette émission de C'est bon pour la santé, les 30 prochaines minutes sur Canal M. Selon un rapport de l'ONU, et ça a été publié en 2013, il y aurait de 30 à 50 % de la nourriture produite dans le monde qui ne se rendrait jamais à nos assiettes, mais directement dans les poubelles. Et au Canada, ben, on est les champions du gaspillage, en tout cas, du moins l'un des pays champions du gaspillage. 40 % des aliments qui sont produits sont gaspillés. Et les grands responsables, eh bien, c'est nous, les citoyens, les familles, les ménages. Les aliments les plus gaspillés, c'est les fruits et les légumes. Et comme on est les principaux, je dirais, acteurs de ces gaspillages-là, il faudrait peut-être aussi que les solutions viennent de nous. Il y a des gens qui pensent à comment renverser la vapeur et comment mettre de l'avant des initiatives afin de contrer le gaspillage alimentaire. Et c'est le cas de la plateforme Bon App qui souhaite rassembler des gens qui ont à cœur cette cause-là afin d'échanger, de trouver des bonnes idées, se motiver à réduire le gaspillage alimentaire. J'en parlerai tout à l'heure avec Geneviève Rousseau, elle qui est cofondatrice et responsable du développement des affaires chez Bon App. Vous savez vous dire que chaque année au Québec, il y a des dizaines de personnes qui sont victimes d'une blessure à la moelle épinière et plus souvent qu'autrement, bien, c'est suite à un accident. Bien sûr, ce sont des lésions, bon, dépendamment de la gravité, qui laisseront des impacts tout au cours de la vie et qui auront également des répercussions majeures sur la santé des personnes, qui amèneront des transformations dans le mode de vie et qui exigeront de grandes adaptations. Bon, il n'existe pas de traitement, on s'en doute, là, en tout cas, du moins pas de traitement définitif pour guérir les lésions médulaires, mais il y a certainement des façons d'assurer la santé des personnes qui vivent avec ces lésions-là et également leur pleine participation. J'en parle avec le docteur Jean Fleury, lui qui est physiatre, il est chef médical du programme des lésions médulaires à l'IRGLM, coordonnateur médical du Centre d'expertise des blessés médulaires de l'Ouest du Québec, et Jacques Comeau, conseiller principal en intégration chez Mémo Québec. Docteur Fleury, bonjour. On rigolait en disant qu'on ne dira pas trop souvent votre titre, là. Il est très long, mais l'important à savoir, c'est que vous êtes physiatre. Jacques Comeau, vous êtes au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous deux d'être présents, d'être là. Bon, en tant que médecin, Docteur Fleury, évidemment, vous travaillez depuis des années avec des gens qui vivent avec différentes lésions médulaires. Vous, Jacques Comeau, ben, vous êtes tétraplégique. Donc, c'est une situation que vous connaissez de l'intérieur. Mm-hmm. Est-ce que c'est arrivé par accident? Parce que je le disais tout à l'heure en introduction, la majorité des blessures médulaires viennent d'un accident. C'est pas toujours le cas. Pour vous, ça s'est passé comment?
Moi, c'est un autre docteur. Moi, j'avais une tumeur dans la moelle épinière. Puis ça faisait une pression sur la moelle. Puis j'avais une petite perte de contrôle de ma main gauche. J'ai passé un mois à l'Institut de neurologique de Montréal, où ils ont fait des tests. Puis ils ont décidé de faire une chirurgie pour voir plus proche c'était quoi le problème. Puis durant la chirurgie, j'ai eu un problème. Puis ça a coupé la circulation de sang dans la moelle qui a causé l'effet que je suis un blessure médulaire. Mm-hmm.
Donc, Dr. Fleury, blessure médulaire, souvent accident, mais dans le cas de M. Comeau, tumeur, il y a d'autres raisons, d'autres causes aux blessures médulaires.
Mais en fait, il y a deux grandes causes des lésions médulaires. On va dire qu'ils sont des lésions médulaires qui sont traumatiques ou non traumatiques. Dans son cas, M. Comeau, c'était non traumatique. Et grosso modo, c'est à peu près moitié-moitié.
Okay.
Moitié de lésions médulaires traumatiques, moitié de lésions médulaires non traumatiques. Traumatique, c'est tout accident. Mm-hmm. Et le plus fréquent actuellement à l'heure, au Québec, ce sont les chutes. Mm-hmm. De plus en plus, et la moyenne d'âge augmente, les chutes chez les personnes plus âgées.
Est-ce que les hommes sont davantage touchés?
C'est bimodal. Alors, dans le premier groupe, les jeunes hommes, 18-32 ans, ce sont des lésions médulaires traumatiques, le plus souvent. Et dans les lésions médullaires traumatiques, d'autres deuxième groupe d'âge, ce sont les patients de 65 et plus, et ce sont des chutes. Mm-hmm. Et les femmes représentent plus de... ils ont plus d'incidence que les hommes.
Mm-hmm. Lorsqu'on parle de lésions médullaires, c'est une atteinte à la moelle épinière.
Une atteinte à la moelle épinière qui peut se produire n'importe où le long de la moelle épinière, aussi bien cervicale, dorsale que dorsolombaire. Dans le cas de M. Comeau, c'était cervicale. Ce qui est particulier, c'est que dans les lésions médullaires traumatiques, il y a plus de 50 % d'atteinte de la moelle cervicale parce que c'est la lésion la région la plus vulnérable du corps pour les chutes.
Évidemment, je le disais tout à l'heure, il y aura des impacts sur la santé des gens qui vivent avec ces atteintes-là. Pour vous, Jacques Comeau, la santé, ça va comment?
Santé va assez bien. Je suis vraiment chanceux. Je pense que j'ai des bons, un corps solide, c'est ça qui est le début. Puis, j'ai pas beaucoup de problèmes santé. J'ai cassé deux jambes dans les 40 ans que j'étais en fauteuil. Mais à part de ça, j'ai pas eu de problème de santé spécifique. Mm-hmm. J'ai eu une plaie une fois, il y a près de 10 ans. C'est sérieux, mais ça s'est guéri, puis depuis ça, j'ai pas de problème.
Est-ce qu'il fait partie des chanceux, Dr Fleury?
Oui et non, mais il fait partie des statistiques, c'est-à-dire dans les lésions complètes, il y a à peu près 50 % de fractures sous la lésion, et en particulier au niveau des jambes. Mm-hmm. Donc, et la plaie, c'est le tiers des patients.
OK. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres conséquences à la santé? Je pense à la santé mentale, par exemple. Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça ou différents constats?
Il n'y a pas de statistiques. C'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes au départ de santé mentale des gens qui, et c'est ça qui les a conduits à la lésion médullaire, ouais, le plus souvent traumatique, ou des abcès chez les toxicomanes, par exemple.
OK.
Alors, la prise de produits intraveineux peut conduire à des infections. C'est une cause de lésions médullaires non traumatiques. Les tumeurs, c'est une autre grosse cause. Les lésions vasculaires, on a parlé il n'y a pas longtemps d'anévrise la horte, malheureusement. Bien, c'est une cause de lésions médullaires parce que ça interrompt le sang au niveau de la moelle.
Est-ce que, bon, je le disais, pas de traitement, on ne peut pas guérir les lésions médullaires, on apprend, on s'adapte à vivre avec. Il y a tout un processus de réadaptation, j'imagine, suite, dans votre cas, Jacques Comeau, suite à la tumeur et suite à ce constat-là, comment ça s'est passé, la transition par la suite?
Bien, c'est un peu dur de m'appeler, parce que ça fait 40 ans que je suis en fauteuil, puis j'ai comme l'impression que Redouo a été en fauteuil, mais c'est vraiment c'est un changement que tu peux pas imaginer. Ta vie sociale change, tes amis, tu en perds, les familles sortent de différentes façons, du monde que tu as peut-être posé des questions, si c'était des vrais amis avant, tu vas voir la vérité que c'est des vrais amis. Ta vie, ton travail change. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Moi, je faisais du ski avant, j'en fais plus. Si c'est quelque chose d'énorme que tu ne peux pas même imaginer à quel point ça change tout.
Est-ce qu'il y a des moyens de rester actif? Je parle de, oui, pleine participation sociale, mais en même temps, de sortir, de faire certaines activités, des activités physiques, de rester actif à quelque part.
Oh, il y a plusieurs choses qui sont faisables pour le monde en fauteuil. Du vélo à main, on a fait beaucoup avec nos membres ici. Fond de ski, kayak, des sports comme rugby, volleyball, il y a plein de choses qui sont faisables pour du monde en fauteuil.
Est-ce que c'est une façon, Dr Fleury, de favoriser la santé des gens qui vivent avec une blessure médullaire, de rester actif?
Tout à fait. Évidemment, le sport est adapté en fonction du niveau de la lésion cervicale versus plus basse et les paraplégiques, c'est-à-dire juste les deux jambes. Mais ce que la plupart des gens et même les professionnels de la santé qui n'ont pas... Il ne faut pas ce genre de clientèle-là, c'est qu'ils développent beaucoup de complications liées à l'immobilisation.
Ouais. Mm-hmm.
Et il y a une incidence accrue de diabète, par exemple, problèmes vasculaires à cause de ça. Alors, c'est sûr que de pouvoir les mobiliser ou de se mobiliser de différentes façons, ça devrait diminuer cette incidence-là et la morbidité liée à être en fauteuil roulant.
Oui. Dans certains cas, il y a de la douleur chronique également.
C'est un des gros problèmes. Il y en a au-delà de 50 % qui ont des douleurs chroniques. Qui est difficile à contrôler, d'autant plus que ces douleurs dites neuropathiques ou neurologiques se présentent souvent au repos quand vous n'êtes pas occupé. si votre cerveau est occupé à faire quelque chose, ça diminue. Et c'est quand même le bout du bout. Quand vous êtes paralysé, le membre qui est paralysé de tout, complètement est habité uniquement par une douleur 24 heures sur 24.
Ah oui. Quand on dit que c'est difficile à gérer, est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent être pris pour apprendre à vivre avec, de gérer au fond la douleur chronique?
La douleur, de plus en plus, on va utiliser des interventions psychologiques pour gérer la douleur qui ont quand même de bons résultats. Les médicaments sont malheureusement d'un effet, ils ont beaucoup d'effets secondaires et ne sont pas si efficaces que ça dans la douleur neuropathique. Donc, c'est quand même, c'est souvent une intervention qui est multidisciplinaire.
Oui. Giacomo, ça fait 40 ans que vous vivez avec une blessure médulaire.
Oui.
Est-ce que vous avez vu les soins, les services s'améliorer avec les années?
Oui et non. Ils sont améliorés dans le sens que on dirait qu'ils sont plus au courant de nos besoins.
Oui.
Malheureusement, pas capables de suivre avec le je suppose les budgets, mais ils sont pas capables de suivre nos besoins. Au point qu'on les a. Souvent, il y a comme des programmes pour adaptation de maison quand vous partez de l'hôpital qui sont pas mal bien pensés, sauf qu'ils ne fonctionnent plus. C'est, il y a comme une liste d'attente de 2 ans avant qu'ils puissent avoir l'argent pour soit mettre une rampe en avant de ta maison ou adapter ta salle de bain. Mais quand vous partez de l'institut de l'hôpital pour aller chez vous, tu ne peux pas attendre 2 ans, il faut être tout de suite. Puis les programmes, même sont bien faits en principe, ils ne sont pas fonctionnels comme les besoins.
Vous le dites, incapacité à répondre aux besoins. C'est quoi les besoins d'une personne qui vit avec une lésion médulaire?
c'est vraiment une grande question. Ça dépend de la personne. Vous aussi, ça dépend de la personne. Le niveau d'handicap, s'il est resté dans un bloc d'appartement ou maison. Le besoin, c'est le plus gros, je pense, au niveau de santé, surtout, c'est qu'il y a des experts, comme qu'on a ici à l'Institut, dans la clinique externe que Dr. Fleury travaille. C'est vraiment bien pour nous autres de pouvoir y aller quelque part et expliquer le problème, puis voir comprendre c'est quoi le problème. Au lieu d'aller dans une clinique externe ordinaire ou un hôpital où ils vont te mettre dans une salle d'attente pour 16 heures ou 24 heures, en attendant qu'ils essaient de comprendre c'est quoi votre problème, puis c'est sûr qu'ils ne comprendront pas comme il faut. Puis là, souvent, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que quand le monde est en attente à l'hôpital, ils vont développer un plaie, puisqu'ils sont dans une civière, ils ne peuvent pas bouger, puis ils se développent une plaie. Puis là, au lieu de se faire traiter pour un problème, tu sors avec un autre problème de plus.
Ouais. Jean Fleury, vous réagissez également à cette question. Ça fait longtemps que vous êtes médecin également. Est-ce que vous avez vu une modification des services apportés?
Il y a des services qui ont été mis de l'avant. On essaie de les bonifier le plus possible. Mais il faut aussi faut tenir compte des coupures budgétaires.
Ouais.
Mais c'est sûr que, de façon générale, en Occident, en Amérique du Nord, c'est un must. Un must que le centre qui traite les blessés médulaires, y compris qui fait de la réadaptation, doit effectuer un suivi à vie de ses patients. C'est un must.
Oui.
Parce que c'est une approche qui est multidisciplinaire. Ça prend beaucoup de professionnels qui connaissent ça. Et j'avais parlé à un médecin généraliste qui éventuellement est allé travailler à Lucie Bruno. Il m'avait dit, j'ai fait 20 ans de pratique, je n'avais jamais vu une lésion médulaire parce que l'incidence n'est quand même pas énorme. Mm-hmm. C'est 40 fois moins que les AVC.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont jamais eu de contact avec une lésion médulaire et malheureusement, ce n'est pas une clientèle facile à évaluer et à examiner à cause des troubles sensitifs et moteurs.
Oui, et aussi parce que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend du type d'accident, ça dépend de la gravité de la blessure, de l'entourage. J'imagine, Giacomo, que l'entourage a un grand rôle à jouer également.
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu as besoin de beaucoup de sport social, psychosocial et physiquement aussi quand tu commences à t'adapter en fauteuil, c'est quelque chose qui touche beaucoup à ça.
Mm-hmm. Le suivi, comment ça s'articule, Giacomo? Est-ce que vous devez encore fréquemment voir un médecin pour s'assurer d'une santé, d'un bien-être maximal?
Mais moi, j'ai un neurologue. Oui, ça, c'est un problème plus précis pour un tétraplégique, c'est des problèmes de vessie. Puis moi, j'ai un neurologue que je vois régulièrement pour des traitements. Je me fais des suivis aussi pour mes os parce que c'est naturel que les os vont devenir plus fragiles, surtout dans le bas du corps pour un tétraplégique avec le temps. Puis j'ai un médecin général qui comprennent quand même assez bien. Puis moi, je suis chanceux dans le sens que je travaille à l'IRGLM, puis je peux toujours me passer aux cliniques vite si j'ai une question importante, puis voir un des médecins comme Dr. Fleury, puis me poser une question. Mm-hmm. Ça, c'est un avantage que j'ai aussi.
Oui. Il reçoit des fleurs, il est content, vous ne le voyez pas.
mais à la clinique, il y a plus que des médecins, hein. Il y a des infirmières cliniciens.
Ah, c'est ça, c'est sûr, oui.
C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir accès à d'autres professionnels. Il a parlé d'une plaie, il a développé une plaie. C'est le 30% qui vont développer des plaies. L'important, quand vous avez une plaie, d'abord, c'est la déceler, évidemment, la prévenir, mais la déceler rapidement et la traiter rapidement. Alors, si vous avez une plaie qui se développe, et surtout en position assise, vous devez rapidement changer la situation, la position, le coussin. On peut faire ça la même journée à l'Institut.
Oui. Vous parlez souvent, Dr. Fleury, de cette importance-là des équipes multidisciplinaires. Bon, ça en fait partie, ça, la prévention, c'est un point important.
De façon générale?
Ben oui, de cette équipe, de cette approche multidisciplinaire.
Oui, ben on est habitué de travailler en équipe. On travaille toujours en équipe. Et l'équipe multidisciplinaire, si on parle de l'étage, physiothérapeute, ergothérapeute, travailleur social, psychologue, toujours, médecin et personnel infirmier. Et le corollaire aussi, c'est des orthésistes ou des spécialistes en positionnement qui peuvent être appelés d'urgence.
Lorsqu'on pense à blessure médulaire, souvent, on va penser aussi à réadaptation. Ça se passe après soit l'accident, après le traumatisme, après le tumeur, la maladie, est-ce qu'après il y a un suivi en réadaptation?
Oui. Alors, la réadaptation initiale fait suite à la lésion, qu'elle soit traumatique ou non traumatique, à l'interne ou à l'externe, tout dépendant de l'importance et de la sévérité de la lésion. La personne qui ne peut pas regagner son domicile pour toutes sortes de raisons va être traitée à l'interne et en particulier à l'Institut, parce que depuis quelques années, le Québec est séparé en deux. De façon provinciale, il y a un centre d'expertise de l'Ouest, un centre d'expertise de l'Est, avec un centre trauma. Alors, on reçoit la majorité des lésions traumatiques du même centre, c'est-à-dire l'hôpital Sacré-Cœur. La réadaptation initiale se fait à l'Institut. Elle peut se poursuivre sur base externe à l'Institut ou ailleurs, ou se poursuivre dans ce qu'on appelle la réintégration sociale, entre autres pour peaufiner des adaptations à domicile, peaufiner des acquisitions, des adaptations qui vont permettre de rentrer à domicile, etc. Alors, il y a trois phases principales. Mm-hmm. À la suite, on fait un suivi à long terme et on réintervient le cas échéant, entre autres pour des problèmes douloureux, des problèmes d'épaule, des problèmes musculo-squelettiques, au besoin pour une fracture, une plaie, etc.
Ça a été important pour vous, cette période-là de réadaptation, Jacques Comeau?
Ah oui, c'est sûr. C'est un temps que faut que tu t'habitues à une vie qui a viré de bord complètement. Faut que tu acceptes tout ce que tu es rendu ou que tu vis avec qu'est-ce que tu as eu. Faut que tu commences à penser à ton avenir, où est-ce que tu vas y aller, qu'est-ce que tu vas faire, quelle sorte de vie que tu vas avoir. C'est énorme. Puis les sports qu'on a ici, c'est plus qu'important. Obligatoire, on a besoin de ça comme minimum. Mm-hmm.
En terminant, parce qu'on devra mettre fin à cette discussion, on le savait, Dr. Fleury, qu'on n'aurait pas assez de temps pour aborder toutes les questions. Comment on fait pour s'assurer d'une bonne qualité de vie pour les gens qui vivent avec des lésions médulaires, et notamment, oui, pour la santé, mais tout ce qui est la réinsertion sociale, réinsertion professionnelle également?
Bien, pour ce qui est de la qualité de vie, puis pour le produit médical, comme je vous disais, ça prend un suivi à long terme. Et on travaille de concert avec des médecins généralistes, des médecins de famille ou d'autres spécialistes. Ça, c'est un point. Il faut faire un suivi. Tous les patients doivent être suivis à long terme. Pour ce qui est de l'ensemble, il y a la société, il y a des services via le CLSC, il y a des services via un organisme comme Mémo Québec qui est absolument indispensable pour effectuer le suivi, l'intégration, proposer des sports également. Alors, on travaille étroitement avec Mémo Québec. Je pense que c'est important. Et M. Comeau fait partie de cet organisme-là.
Votre avis là-dessus, Jacques Comeau?
Je suis complètement d'accord. C'est vraiment d'avoir des suivis qui sont possibles, d'avoir le support que tu as besoin, au besoin, pas des listes d'attente. Comme il disait tantôt, un plaid, il faut que ça faut que ça soit tout de suite. Si tu veux attendre ça, ça peut guérir. Ça peut aggraver à un point que c'est presque impossible de guérir. Ça peut prendre des années. Puis tu ne peux pas imaginer comment un vieux peut changer quand tu es pogné au lit pour un an de temps. Surtout si tu travailles, c'est incroyable. C'est vraiment des suivis puis des sports de tout le monde qui rend ça plus facile.
On dirigera les gens vers moilespinières.com sur notre site. Docteur Jean Fleury, Jacques Comeau, merci beaucoup de cette discussion.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Geneviève Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice et responsable du développement des affaires de Bonapp. Bonapp, c'est une plateforme qui, d'une part, tente de réunir des gens qui ont envie de réduire le gaspillage alimentaire. Ça vient de quel constat, ça vient d'où ce désir-là de vouloir réduire le gaspillage alimentaire?
Oui, mais c'est bien résumé en une phrase, justement, Bonapp. Puis c'est né du constat, justement, j'ai fait mes études en développement durable et marketing au HEC, puis c'est lors d'un projet que j'ai réalisé l'ampleur du problème du développement durable. Donc vraiment, sur les trois donc volets, autant économique, ça nous coûte au Canada, c'est 31 milliards de dollars oui. par année, chose qu'on pourrait réinvestir ailleurs, une somme assez importante. Côté environnemental, ça a un impact assez nuisible pour notre planète, donc on parle même en fin de vie, quand c'est mis dans les dépotoirs, ça émet du méthane, qui est 20 fois plus puissant que du CO2. Puis côté social, c'est un peu aussi inacceptable que certains ont faim, d'autres gaspillent la nourriture. Donc, c'est avec ce constat-là que j'ai réalisé, puis aussi en réalisant qu'en Allemagne, il y avait des initiatives de food sharing, donc de partage de nourriture, pourquoi pas permettre à Montréal d'avoir accès à une telle plateforme.
Oui, et d'inspirer peut-être d'autres villes au Québec, d'autres villes au Canada, parce que 31 milliards, c'est énorme. En effet, ça pourrait être investi ailleurs. Geneviève, comment elle fonctionne, cette plateforme-là? Vous êtes à vos tout débuts, là, il faut le mentionner.
Donc, c'est encore vraiment la vision Bonapp pour le moment, c'est qu'on veut permettre à nos membres de pouvoir réduire leur gaspillage alimentaire, et ce, via différents outils. Mais pour le moment, on invite les gens à pratiquer l'abondance. Donc, c'est vraiment notre appel à l'action. Puis pratiquer l'abondance, ce que ça veut dire, c'est de faire plus avec ce qu'on a déjà. Parce qu'on a réalisé que justement, surtout au Québec, en Amérique du Nord, ça abonde les produits autour de nous. Puis on est aussi certains dans la génération un peu plus Costco, où on achète deux fois plus pour deux fois moins. Ça a moins de valeur, ces produits-là. Puis ça ne nous dérange pas de les gaspiller. On ne voit pas justement directement la perte monétaire, la perte les coûts environnementaux reliés à ça. Puis aussi, parfois, il suffit juste d'être un peu inspiré créativement pour faire plus avec ce qu'on a. Donc, une de nos recettes, on a beaucoup de recettes, c'est les pelures de pommes de terre qu'on peut prendre. Donc, quand on pèle nos pommes de terre, bien, on garde les pelures, on les assaisonne d'huile d'olive avec des épices de votre choix. On les met au four 15 minutes, puis ça fait des petites chips en entrée.
Ben oui.
Puis on fait ça avec des pelures d'orange, des pelures de pommes, différentes recettes. Donc, c'est vraiment... On commence par inspirer plus via du contenu qu'on est capable de partager avec via Facebook. C'est vraiment notre page Facebook Bonapp qui est la plus active puis la plus engagée en ce moment. Mais à long terme, on veut développer des outils donc, qui permettent aux gens concrètement de pouvoir moins réduire, donner, recevoir gratuitement des fruits et légumes.
Oui, de pouvoir aller porter ces fruits et légumes, ceux qu'on pense qu'on ne pourra pas utiliser pour X, Y raison, de dire mais ça pourrait servir à une autre famille.
Oui.
Et puis, également, il y a ce désir-là de rassembler des gens qui ont la même quête.
C'est ça. Donc, c'est vraiment, on veut bâtir cette communauté qui pratique l'abondance. Donc, nos membres Bonap, pour le moment, on a quand même presque... On a des centaines de membres inscrits sur notre infolettre, donc des personnes qui veulent être informées, qui vont lire c'est quoi nos nouvelles. Aussi, sur Facebook, on est rendu à quand même plus de 1200 followers, un peu, qui nous suivent puis qui m'écrivent. Je reçois beaucoup de courriels sur justement comment est-ce que je peux aider Bonap, j'aimerais ça faire partie, est-ce que je peux assurer le transport, la distribution. Donc, on veut aussi connecter via des événements, donc nos membres. Donc, on organise de plus en plus des petits événements. Le prochain, c'est mercredi prochain.
Oh, quand même.
Puis sur notre page Facebook, on va faire... Il y a 10 places, donc c'est assez privé. On va inviter une personne inspirante qui fait du chocolat, donc un chocolatier, pour nous dire quoi faire, comment lui utilise des ingrédients différents. Mais plus ça va aller, plus nos événements vont grossir, puis on va pouvoir aussi inviter des chefs puis différents acteurs pour... inspirer notre communauté.
Oui, des gens qui sont des leaders et qui peuvent inspirer le grand public à réduire le gaspillage alimentaire. Pour le moment, Geneviève, est-ce qu'il y a un point de chute pour les fruits et les légumes?
Donc, pour le moment, on avait fait un projet pilote à la gare, qui est un espace de coworking, mais là, on a appris de ce pilote-là, puis on est en train de développer vraiment, tu sais, c'est quoi le point de chute physique? Est-ce que c'est nous qui allons créer notre frigo Bonap? Parce qu'on va profiter des frigos existants au sein... Donc, des différents points de chute. Donc, on est en train de le développer, cet espace, cette structure physique-là. Mais on a, oui, des partenaires qui m'ont dit qu'ils aimeraient être un point de chute, dont le salon 1861, qui est plus à Griffintown. Mais lui, il aimerait vraiment supporter Bonap à être un point de chute, donc pour que les personnes puissent venir déposer les surplus puis repartir avec. Donc, mais on va les annoncer, c'est sûr, dès qu'on en a des officiels. Puis on veut faire des projets pilotes avec d'autres partenaires, donc des cafés... Donc,
Et j'imagine que les gens qui sont déjà présents sur la plateforme, que ce soit via la page Facebook, via les infolettres, peuvent vous soumettre quelques idées.
Oui, vraiment. Pour nous, c'est vraiment l'esprit de collaboration, qu'ensemble, on est plus fort que chacun de son côté. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. Puis, Bonap, on veut rassembler tout ça parce qu'on a les ressources derrière, parce qu'au fond, j'ai la chance, quand j'ai parti Bonap, d'avoir été incubée par NA.
Oui.
Donc, NA Communication, qui est une agence de marketing socialement responsable. Donc, on a cette machine NA derrière Bonap qui permet de rendre possible des idées que d'autres peuvent nous soumettre. Donc,
et toutes ces excellentes intentions, c'est vraiment de très, très beaux objectifs. Peut-être un lancement officiel de la plateforme au début de l'été 2016, Geneviève.
Idéalement.
On vous le souhaite. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice et responsable du développement des affaires de Bonap. On glissera bonap.ca sur notre site. Comme ça, les gens pourront aller vous visiter.
Oui, avec plaisir.
Merci. Merci Jean-Sébastien Laliberté, Marianne Paquette au micro. Ben, nous, on se redonne rendez-vous demain. Demain, on parle de défibrillateurs qui pourraient être installés dans les écoles pour sauver la vie des étudiants. Deux jeunes filles viendront nous parler de ce très beau projet et notre infirmière Jocelyne Gadebois, les maux d'eau, comment on peut les prévenir. Bye-bye tout le monde, à demain.